Donc, oui, disons que ça ne sera pas en couleur ce matin. Ça va être pas de couleur. Alors, on sait qu'on est en famille, puis on a du bon temps ensemble. C'est merveilleux de voir les enfants. Ça me rappelait quand j'étais jeune, et j'étais déguisé dans le prophète Jérémie avec une grande robe, puis un bâton. Puis à chaque fois que je vois une séance d'enfants, je pense à ce temps. Puis là, je citais le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, puis une lumière à 20 pieds. » Et là, tout le monde a ri de moi. Ça m'a traumatisé. Depuis ce temps-là, je fais le mal quand j'arrive devant les gens. Mais, dans tous les cas, vous savez, tout tourne autour d'un personnage extraordinaire, qui est Jésus. Hein? Les anglophones, dans les années 70, ils appelaient ces gens-là « the Jesus freak », les maniaques de Jésus. Je ne sais pas trop là, en français comment « freak » peut être traduit. Mais tout tourne autour d'un personnage. Et cette semaine, dans mes contacts, je rencontrais quelqu'un et je lui disais justement, « Jette toutes les religions aux poubelles, mais le personnage, il est réel, il est vrai. » On est dans une époque, en 2018 et 2019 bientôt, lorsqu'on parle de faire quelque chose pour Dieu ou de faire une religion ou de faire des actes de piété, adorer Dieu, louanger Dieu, le monde a peur de ça. Ils ont peur de ça, puis ils ont été tellement trahis par leur propre religion de naissance lorsqu'ils sont nés d'une manière biologique, ils sont nés dans une religion quelconque qui a été trahie, ils ont perdu l'espoir. Mais il y a toujours ce personnage qui passe au travers de toutes ces épreuves-là, et c'est Jésus-Christ. Donc, le texte pour moi ce matin, dans quelques minutes, ce serait Philippiens chapitre 2 et le verset 5 à 11. Je vais vous lire ceci, et ça va bien avec le texte de ce matin. Même, je voulais me lever à la table du Seigneur pour l'apporter, mais le Seigneur n'a pas permis, donc le Seigneur a rendu ça autrement. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, ainsi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, s'il y a un texte dans le Nouveau Testament qui souligne justement Emmanuel, Dieu fait homme, Dieu fait chair, c'est ce petit texte dans Philippiens que Paul va écrire à l'église de Philippe. Et j'aimerais tout simplement souligner ceci comme premier point. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une exhortation à voir. Et le mot phronéo qu'il y a là dans l'original, c'est le mot pensée. Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Pensez comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus-Christ dirait à propos de telle et telle chose? On a entendu ce matin une sœur qui nous a partagé en observant les Écritures, en laissant les Écritures nous parler, en observant Jésus-Christ, la manière qu'il parle, la manière qu'il agit, sa réaction envers même ses ennemis. On voit qu'il est ferme, il prend la parole de Dieu, puis il cite l'Ancien Testament, puis on voit son caractère, un caractère, un homme rempli. On a vu avec le sermon de la montagne ce matin avec Jean-Guy, comment est-ce que le caractère du Seigneur émane de la parole de Dieu. Et c'est un personnage que nous présentons. Ce n'est pas « venez nous voir, on a tricoté une religion qui va faire votre affaire ». Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu sur cette terre. Et il nous donne le défi de penser comme lui. Ayez les sentiments, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il était la métamorphose de Dieu. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Vous voulez savoir comment est-ce que Dieu agirait sur la terre s'il viendrait? Regardez, lisez, méditez et regardez Jésus. Vous allez savoir ça. Quel privilège nous avons, nous, de comprendre cela ce matin, ces choses-là. Une petite chose ici, j'aimerais aussi souligner, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Très difficile à traduire, ça fait couler beaucoup d'encre, même le fait qu'il s'est dépouillé a fait couler beaucoup d'encre aussi. Mais vous savez, le fait qu'il était Dieu, sans péché, sans défaut, sans tâche, n'a pas été un argument qui l'empêchait de venir sur cette planète Terre, qui l'empêchait de venir nous sauver. Et il y a un homme qui a dit un jour, « Est-ce qu'on réalise vraiment la peine, la souffrance de Jésus lorsqu'il marchait sur cette terre? » Je ne sais pas si vous êtes arrêté à ça déjà. On parle, Jésus à la croix a souffert. Oui, il a souffert la mort de la croix. Il a souffert d'ignominie. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais marcher parmi son peuple, Israël, ce peuple qui ne l'ont pas reçu, qui l'ont rejeté, il a marché parmi des gens qui constamment lui tendaient des pièges, constamment voulaient le prendre en défaut, constamment le traitaient de démon même. Et même sa propre famille, avant que sa famille se convertisse, il traitait d'excentrique. C'est un bizarre dans la famille, Jésus, même pour ses frères et ses sœurs. Mais le Seigneur a marché sur cette terre en voyant le mal, en voyant l'égoïsme, en voyant les gens qui étaient en amour avec l'argent, amour avec le pouvoir, en amour avec le plaisir, en amour avec toutes sortes de choses qui faisaient leurs affaires. Où ce que le verbe « je veux » prenait la place. « Je veux », le verbe « vouloir ». « Je veux de l'argent », »,« je veux du plaisir », »,« je veux ci », »,« je veux ça ». Et Jésus nous apprend à prendre ce mot « je » et le transformer en d'autres choses. Être, le verbe « être ». Être quelqu'un qui prend Jésus au sérieux. Être quelqu'un qui réalise que Jésus, il n'y a rien qui l'a empêché de venir sur cette terre. Il y a un homme, je vais donner la citation, qui dit Jésus, il marchait sur la terre. C'est comme nous, si on irait marcher dans une dompe, où il y a toutes choses, des choses qui pourrissent, ça nous pogne au nez. De la misère à rester là, comme le feu qu'il y a présentement, là, qu'on a vu ce matin, là, les pneus qui sont en train de brûler. Là. Ça pue, c'est Jésus voyait le cœur de l'homme. On ne pouvait pas dire, Jésus, je vais te présenter un tel, puis je vais te dire son métier, puis je vais te dire ce qu'il y a dans son cœur. On n'avait pas besoin de faire ça avec Jésus. Jésus voyait dans le cœur des gens. Il voyait leurs intentions devant leurs actions. Et c'est merveilleux, Jésus est quelqu'un qui n'a pas hésité à quitter le ciel et venir sur cette terre. À quitter ses palais d'ivoire et venir sur cette terre. Il n'a pas hésité ça du tout. Il est venu pour remplir son rôle. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et un homme a fait une belle phrase une fois, il dit, il était l'homme parfait de Dieu et le Dieu parfait de l'homme. Alors, c'est pour cela que notre message à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine, ce n'est pas venez dans notre religion, c'est venir rencontrer une personne, Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion tricotée par nous autres, mais c'est une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation, nous pouvons l'avoir par Jésus-Christ qui est venu accomplir sur la terre le paiement de nos fautes. Le verset 7 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je ne sais pas pour vous si vous seriez prêt à faire cela pour quelqu'un. Un jour, il y a un homme qui a pilé sur une tanière de fourmis. Et puis, en pilant sur la tanière de fourmis, il a tout brisé le cône qu'il y avait en haut. Puis là, il a vu les fourmis qui se dépêchaient à réparer le trou pour être capables de continuer leur travail. Puis il a eu l'idée, il a dit, comment je pourrais faire pour aller dire aux fourmis de ne pas se décourager, j'ai pas vu ce que j'ai fait, donc j'ai brisé leurs affaires. Comment je pourrais dire aux fourmis que je regrette ça? Comment je pourrais dire aux fourmis, écoutez, fourmis, là, c'est moi qui ai fait ça, là, puis... Fait que la conclusion, c'était ceci, c'était, pour parler aux fourmis, il faut devenir une fourmi. Et le Seigneur, c'est ce qui est arrivé. Pour nous parler, pour qu'on le comprenne, pour qu'on saisisse les choses à propos de sa personne, à propos de Dieu, il est devenu un homme. Mais un homme sans péché, sans défaut, sans tâche. Parce que la première promesse de la venue du Seigneur, c'est dans Genèse 3, 14, 15, lorsque Jésus, tout de suite après la chute, va dire, pas Jésus, mais l'Éternel, dans l'Ancien Testament, va dire, carrément, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une des premières prophéties concernant le Messie. Vous savez, ça aurait été marqué la postérité d'Adam, on pourrait tout jeter nos bibles aux poubelles. Mais il a dit la postérité de la femme qui a fécondé. On a chanté le chant Marie tout à l'heure. Vous savez, dans notre milieu évangélique, souvent, on a peur de parler de Marie. Mais savez-vous que dans le temps de Jésus, dans le premier siècle, c'était le rêve de toutes les jeunes filles vierges d'être la porteuse du Messie. Il y avait des jeux sociaux dans ce temps-là, et puis qui étaient là, puis que c'était même une raison pour rester vierge, c'était se garder pur en cas que l'Éternel les choisisse pour être les porteurs du Messie. Et Marie, une grâce lui a été faite. Elle est devenue celle qui a porté le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est merveilleux de penser à cela. Parce que pour vraiment comprendre l'Évangile, il fallait l'entendre, il fallait le voir agir, il fallait s'identifier avec un homme, une personne. Mais pas une personne comme nous, avec des défauts, avec des péchés, avec des manières de vivre qui déshonorent Dieu, mais avec Dieu lui-même. Dieu lui-même est venu nous parler. Donc, le message de l'Évangile est compréhensible. Ce n'est pas compliqué. Même, c'est tellement compréhensible que c'est épeurant pour certains. C'est trop compréhensible. C'est trop facile. Garantie, vous allez sur la rue des Forges, vous donnez un stylo en or. Il vaut 2000 $ ce stylo en or-là. Peut-être 3000 avec la bourse aujourd'hui, je ne sais pas. Vous donnez ça à quelqu'un, vous dites à la personne, je te donne un stylo, elle vaut 3000 $ ce stylo-là. La personne va regarder alentour de vous, là, puis elle va dire, je dois être firmé, ça, c'est un joke, ça, là. C'est un joke, ça. Il y a une poigne avec ça, il y a une poigne là-dedans, c'est certain. C'est certain qu'il y a une poigne dans ça. Puis elle va avoir peur de prendre ça. Vous savez, la bonne nouvelle de Jésus est tellement une bonne nouvelle qu'on a peur d'y croire. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Le prix qu'il a payé, il me donne le salut, la vie éternelle. Il me donne une relation personnelle avec lui, gratuitement, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Donc, je vais arrêter de rater ma vie, puis je vais vivre vraiment dans le sens de la vraie vie selon Dieu. Il a tout fait ça gratis pour moi, là, lui-là. Il veut pas mon argent, il veut pas... Hein, oui, il a fait ça pour toi, par amour pour toi. Et Dieu suscite dans nos cœurs une réponse. Et vous qui avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous avez donné une réponse. Et cette réponse est pleine de gratitude, est pleine d'admiration, d'adoration, de louange envers Dieu. Parce qu'on réalise qu'il nous a payé un grand prix. Et le prix, on l'a ici. Il s'est humilié lui-même, il est devenu un esclave. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour satisfaire la justice de Dieu. Lui qui était sans péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Et lorsque le Père nous regarde, il nous regarde au travers du sang de son Fils, puis il nous voit sans péché, il nous voit juste, parce qu'on est couvert par le sang de Christ. Et c'est cela la bonne nouvelle. Elle est tellement extraordinaire, elle est tellement belle, cette bonne nouvelle-là, qu'on a de la misère à la saisir pour nous-mêmes. Et que le Seigneur nous aide chacun de nous. Vous savez, obéir, même si ça fait mal, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, ça, hein? Ça vous tente-tu de souffrir? Ça vous tente-tu sur le menu, là, cette semaine, là, c'est de la souffrance que je vous présente. Mais cette souffrance-là vient parce que vous avez obéi à Jésus. Ça vous tente-tu? Ne tente pas de souffrir, moi. Mais Jésus, lui, il a resté sur cette croix. Il a souffert sur cette croix. Vous allez dire, oui, mais il n'avait pas le choix, il était cloué là. Mes amis, ce n'est pas les clous qui l'ont gardé sur cette croix. C'est son amour pour nous qui l'a gardé sur cette croix. Il aurait pu descendre. Même, il a dit, je pourrais dire, dans des légions d'anges, je pourrais appeler des légions. Mon Père m'enverrait des légions d'anges pour me délivrer. Mes amis, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui est resté cloué sur cette croix à cause de moi et de vous. Et c'est pour cela que ce beau verset que nous connaissons tous, Jean 3,16, nous explique toute la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Êtes-vous du monde? On est des êtres humains. Vous vous appelez peut-être Joséphine, car Dieu a tant aimé Joséphine, le monde, qui a donné son Fils unique, afin que Joséphine, que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais que Joséphine ait la vie éternelle. C'est beau, ça? Mettez votre nom dans ça. Ma femme a donné son témoignage la semaine passée, et puis elle est venue au Seigneur comme ça. En mettant son nom dans ce verset-là. Peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur ce matin. Prenez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, mettez votre nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela, les pensées de Jésus-Christ. Il pensait à nous. Il a souffert l'ignominie, nous dit Hébreux 12. L'ignominie, il a souffert cela pour nous. Il a resté cloué sur la croix par amour pour nous. Juste pour cela, l'auteur ici, Paul, quand il dit « se rendant obéissant jusqu'à la mort », puis il rajoute « même jusqu'à la mort de la croix », parce que ce n'est pas facile. Hein? Pas facile de souffrir. Arrangeons-nous pour souffrir en obéissant à Dieu que plutôt souffrir en désobéissant à Dieu. C'est mieux pour ça, c'est mieux de même, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous donne ici, pour terminer, parce que je vais plus trop loin avec cela, mais je vais terminer. C'est pourquoi Dieu, verset 9, qui est la glorification de Jésus-Christ, et c'est un privilège pour nous, une proximité pour nous, vous allez voir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La souverainement élevée. Il a donné le nom au-dessus de tout nom. Vous demandez le nom qui est au-dessus de tout nom? Ce n'est pas Michel, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Éternel, c'est le nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'on est peut-être perçu comme les maniaques de Jésus, là, mais c'est Jésus qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que le but de Dieu, c'est que tout genou fléchissent sur la terre comme au ciel devant Jésus. Et vous savez le privilège qu'on a, la proximité qu'on a, nous? C'est qu'on peut le faire dès maintenant. Un jour, le monde entier va se fléchir les genoux devant Dieu. Le monde entier. Ceux qui y croient, puis ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient en son nom, aujourd'hui, maintenant, on peut l'accepter comme notre sauveur personnel. On peut l'accepter. Et fléchir les genoux en 2018. C'est-tu merveilleux, ça? Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a adoré Dieu. On a fléchi spirituellement nos genoux devant lui. On l'a reconnu comme le Seigneur de nos vies. Et on a magnifié Jésus-Christ. Et c'est cela l'adoration et la louange à Dieu. Et c'est cela que Paul veut dire aux Philippiens. Philippiens, n'oubliez pas, Jésus, il y a le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que le but de Dieu le Père, à cause de son sacrifice parfait, accepté du Père, nous déclare juste. Et la fin de l'histoire de toute l'humanité, de tout ce qui se passe, ça va finir à genoux devant Jésus. Parce qu'il est Dieu. Puis il a réglé notre problème, mes amis. On avait un fichu problème. On manquait le but pour lequel on a été créé. On développait des relations tout croches et tordues avec les autres. On transgressait la loi de Dieu. On définissait le bien et le mal pour nous autres-mêmes. Puis on devient des êtres humains inquiets, troublés, pas agités. Jésus est venu intervenir. Il est venu sur cette terre. J'espère que lorsque vous voyez une crèche, vous ne pensez pas que c'est des Jedi. Parce que c'est arrivé. J'espère, lorsqu'on arrive dans le temps de Noël, vous pensez que c'est juste des cadeaux. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous pensez ça. Mais quelle belle occasion qu'on a de rappeler la signification de Noël. J'étais à Costco. Je ne sais pas si vous avez été sur Costco dernièrement, les deux derniers jours. Là. Personne? Ah, vous êtes sœurs, vous n'allez pas là. Ça avait un goût de l'enfer. En tout cas, là... Puis là, je voyais tout ce monde-là, là, puis je me disais, le stationnement était plein, la gaz de voie, je vois tanker là, c'est 4 cents moins cher qu'ailleurs. C'était plein, puis je me disais à moi-même, si j'arrêterais chaque personne qui avait là, puis je lui demanderais, c'est quoi la vraie signification de Noël? Je me demande ce qu'il me dirait. Vous avez déjà pensé à ça? On va dans les familles, là. Posez la question pour le fun. Faites pas de chicane, là, mais... Poser la question. C'est vrai la vraie signification? Bien, nous, on a le privilège ce matin d'y réfléchir à la vraie signification de Noël. Quel privilège qu'on a. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour cette occasion que nous avons avec ce jour choisi qu'on appelle Noël, de se rappeler que le début de tout cela, Seigneur, c'est l'intention de souligner ta présence parmi nous. Toi, la lumière du monde. Toi, le sel de la terre. Toi qui nous as tant aimés. Que tu es venu régler notre problème. Seigneur Dieu, sois avec chacun de nous dans nos rencontres familiales, sois avec chacun de nous, Seigneur Dieu, dans ces temps de fêtes, ces temps d'échange de cadeaux. Et rappelle-nous au travers de toutes ces choses-là que le plus beau cadeau que nous avons eu, c'est Jésus-Christ. Et à toi toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Et sépare-nous avec ta bénédiction. Amen. Amen.